l'invité du jour.
7h45 à l'écoute d'RJFM. Notre invité du jour aujourd'hui, Nasser Djilali, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin pneumologue à l'unité donc d'addictologie au centre hospitalier de Montluçon. Pour nous parler, eh bien, de cette opération, le mois sans tabac, c'est la première fois qu'on une opération comme ça de grande envergure qui se fait en France. Qu'est-ce que vous en pensez tout d'abord cette opération? Tout d'abord, on peut la décrire éventuellement.
Bonjour, je remercie donc RJFM de l'invitation. Il est vrai qu'avec 73 000 décès imputables au tabac. En France, ce qui fait l'équivalent de 13% des décès, dont 47 000 par cancer, il est important au pouvoir public de voir pour une meilleure prise en charge, d'autant plus que outre-Manche, par exemple, en Angleterre, où on a trois fois plus des mois sans tabac. Mmh. Alors, le mois sans tabac a commencé hier, on peut dire aussi trois mois sans tabac. Donc cette opération qui consiste à en même temps aider les fumeurs. Donc il y a actuellement 110 000 volontaires, ce qui représente à peu près 1 sur 100 fumeurs. À rappeler qu'il y a trois fois en Grande-Bretagne. C'est une première. Il y a une relation directe avec une prise en charge avec le tabac infoservice. Hein.
Oui.
Donc c'est noté sur les paquets de cigarettes où les fumeurs peuvent appeler directement ou ils peuvent être en relation avec un médecin tabacologue pour des renseignements pour une meilleure prise en charge.
On est d'accord, ça a commencé hier, mais si le fumeur désire aujourd'hui arrêter de fumer, il peut commencer aujourd'hui, on est bien d'accord.
Tout à fait, bien sûr. Donc ils peuvent commencer aujourd'hui.
Ou demain.
Ou après-demain, mais l'essentiel, ouais. Il y a une forte motivation. Bien sûr, tous les jours sont les bienvenus pour arrêter de fumer.
Ouais. Le fait que ce soit une démarche collective, là, initiée par le ministère de la Santé, vous pensez que c'est bien, ça crée une dynamique?
Tout à fait. On a remarqué quand même qu'il y a quand même une recrudescence du tabagisme en France. On a 23% de lycéens sans fumeurs. C'est beaucoup.
Ah oui.
On a inversé un peu la courbe en 2004 et 2003. À partir de 2003-2004, on voit qu'il y a une inversion et on voit qu'il y a plus de fumeurs et surtout les lycéens. Donc, bien sûr, on agit pour tout le monde. Mais surtout les débutants, surtout les lycéens, ça serait bien mettre le paquet avec des campagnes de sensibilisation dans les écoles, même tout petits. Voilà, ça c'est très important.
Mmh. Le prix du paquet est aussi important. Certains souhaitent le monter jusqu'à 10 euros. Quand on monte le prix du paquet, il me semble à chaque fois il y a toujours une baisse de fumeurs aussi. C'est important ça.
Oui, on voit bien qu'il y a quand même de ce côté, il y a un intérêt, mais en même temps, on voit qu'il y a le nombre de fumeurs qui a augmenté. Donc, ce n'est pas aussi quelque chose qui peuvent arrêter. Parce que il y a une addiction derrière. Mmh. Donc, il faut une prise en charge quand même médicale, psychologique, nutritionnelle. Voilà, c'est une prise en charge multidisciplinaire. Je remercie aussi quand même le ministère de la Santé que jusqu'à présent, on avait 50 euros remboursé par la sécurité sociale, alors que là, on va passer à 150 euros
pour les patchs. Pour les patchs. Hein.
Voilà, ça c'est très important.
D'accord. Il y a un kit qui est disponible sur Internet, un kit donc pour les outils pratiques et gratuits pour tenir ces fameux 30 jours, car les 30 premiers jours sont super importants pour arrêter de fumer, on est bien d'accord.
Tout à fait. Donc il y a des kits qui sont par exemple dans les pharmacies ou dans les chez les associations. Qui permettent de leur donner des guides d'information pour avoir des activités, voilà, et puis des messages de soutien. Donc les patients fumeurs peuvent être aussi contactés tous les 1 à 2 jours pour voir comment ça se passe, est-ce qu'ils tiennent le coup, et c'est quelque chose de très très important.
Bien sûr. Au-delà du mois sans tabac, évidemment, vous recevez des personnes qui souhaitent arrêter de fumer tout au long de l'année dans cette unité d'addictologie. Quel type de personnes prenez en charge?
Bien sûr, on assure jusqu'à 500 consultations à l'unité de tabacologie. À l'hôpital de Montluçon, il y a une unité d'addictologie où il y a une prise en charge pour le tabac et il y a une prise en charge pour tout ce qui est alcool. Voilà. Donc pour l'unité de tabacologie, il y a quand même 500 consultations par an, dont moi j'assure deux demi-journées par semaine. Il y a aussi, je suis aidé par les infirmières que je remercie. Aussi il y a une secrétaire qui est bien formée pour tout ce qui est prise en charge pour le tabac. Mmh. On prend en charge les patients en externe, c'est-à-dire qui viennent en consultation adressée par le médecin traitant ou par eux-mêmes. Hein. Et puis par prise en charge des patients qui sont en interne, c'est-à-dire ceux qui sont hospitalisés et qui malheureusement ils sont fumeurs, ils ne peuvent pas fumer. Donc là, ils sont pris en charge directement par moi-même ou bien par les infirmières sur place.
Le profil des personnes que vous recevez, c'est quoi ?
Alors, le profil des fumeurs sont multiples. Il y a les ex-fumeurs, il y a les fumeurs récents, il y a ceux qui ont une pathologie pour lesquelles ils viennent rapidement pour arrêter de fumer. Donc, c'est vrai, la prise en charge du fumeur nécessite quand même un travail, du temps. Parce que les profils ne sont pas les mêmes. Comme vous le savez, tout ce qui est lié aux pathologies cardiovasculaires, les pathologies neurovasculaires aussi, et puis tout ce qui est lié au tabagisme pour le poumon. Hein, on voit bien les insuffisances respiratoires de plus en plus, les cancers du poumon. Je voudrais noter aussi un point important concernant le tabagisme passif. Un tabagisme passif quand même. Actuellement, l'OMS a noté qu'il y a 1100 décès par an, dont 150 par cancer du poumon. Donc il n'est pas négligeable. Et le citoyen qui n'est pas fumeur a tout le droit de demander, qu'il n'y a pas de pollution liée au tabac dans son entourage.
Même si tout ça a été réduit, peut-être par le fait qu'on n'ait plus le droit de fumer dans les lieux publics.
Oui, les lois, si vous voulez, sont les lois, mais il faut les faire respecter aussi. Les faire respecter, ou s'il faut donner les moyens. Parce que il faut installer quand même des pièces à ceux qui fument en attendant qu'ils arrêtent de fumer. Voilà. Et là aussi, j'appelle à nos administratifs de donner les exemples, parce que c'est vrai qu'on voit même ceux qui ont le droit de donner les règles, parfois sont fumeurs, et ça perturbe un petit peu la communauté médicale. Voilà.
D'accord. Alors, par rapport donc, au tabac, on le sait, enfin, quand on est fumeur, il y a ce problème de gestuelle aussi. Est-ce que la vaporette peut être éventuellement un outil pour aider également à arrêter de fumer ?
Oui, bien sûr. Tous les moyens sont bons pour arrêter de fumer. Alors, la cigarette électronique a été inventée, ça fait donc 5 ans qu'on est avec des patients qui vapotent, bien sûr. J'ai donné déjà un article sur la montagne il y a 3 ans, 4 ans. On a toujours quand même des c'est comme la cigarette, si vous voulez. Y a toujours des toxicités liées à ces produits. D'autant plus que c'est pas bien contrôlé. Par rapport au tabac, on sait de quoi il s'agit. Alors que pour le vapotage, où j'ai des patients, par exemple, qui me disent il a coupé avec de l'eau, il sait pas. Voilà. Si vous voulez, c'est important. Alors, la cigarette électronique est bien dans une structure, dans un but de sevrage, c'est-à-dire sur 3 mois pour arrêter complètement.
D'accord.
Mais ce n'est pas du tout pour une entrée comme un boulevard dans le tabac.
D'accord. Et également, on sait quand on est fumeur également, le plus compliqué c'est l'apéro, parce qu'on voit un coup, hein, fumer une cigarette avec. Il faut faire quoi ? Il faut arrêter les apéros ?
Oui, alors, tout à fait. Bien sûr, il y a les gestuels, il y a tout ce qui est gestes accompagnateurs avec. Moi je dirais, il faut boire un verre d'eau, hein. Bien sûr, l'activité physique, ce que j'ai dit, hein, c'est important. Boire d'eau, de l'eau, activité physique, changer de comportement, changer de salle, voilà. Ces comportements du fumeur, c'est vrai, ne disparaissent pas facilement. Tout se passe dans la tête. Hein, dès le début, on sait que tel fumeur va arrêter ou non. Voilà, nous par exemple, à l'hôpital de Montluçon, on a 40% des patients qui ont diminué la toxicité, hein, mais dont 20% qui sont en arrêt total. Vous voyez, donc ce n'est pas toujours gagné. Et les échecs, c'est pas un échec définitif. Bien sûr, on arrive avec 2-3 échecs. Donc c'est toujours un gain. Même un jour sans fumer, c'est déjà un bien.
Justement, pendant le mois où sans tabac, si éventuellement, je sais pas moi, le 15, 16 novembre, au milieu du mois, on en grille une parce qu'on craque, c'est grave, docteur?
Alors, ce n'est pas grave. L'essentiel est que tout ça se passe dans la tête. Je veux dire, on est là pour vous aider. Justement, il y a le tabac info service pour vous aider. Vous appelez, on peut vous recevoir. Et je veux dire, un mois sans tabac, après il peut y avoir quelques difficultés. Un autre mois sans tabac. Le but, c'est de comprendre tout cela. Et puis, on arrête à réduire parce que c'est quand même un fléau important.
Bien sûr.
Et pour vivre mieux, d'autant plus que les maladies cardiovasculaires et pulmonaires et tout ce que vous avez comme tabagisme passif, notamment pour concernant les enfants, tout ce qui est infection ORL, la mort subite chez le bébé.
Et, voilà. Et ce qui est intéressant, en tant qu'ancien fumeur, je peux le dire aussi, c'est qu'on rapidement on retrouve des choses aussi. On respire mieux, on retrouve les odeurs, c'est quand même particulier.
Tout à fait. Donc il y a toujours les bienfaits liés à l'arrêt du tabac. On ressent, bon, bien sûr, on ne ressent pas tout de suite, immédiatement, mais déjà, au niveau physiologique, le monoxyde de CO, il diminue, la pression artérielle, par exemple, elle se normalise. Voilà, donc, les autres, mieux respirer, voilà, on ressent quand même, il y a une amélioration de la force musculaire, tout ça, ça vient petit à petit. Je veux dire, au bout de 10 ans, on retrouve le même niveau comme si quelqu'un, je veux dire, le fumeur par rapport au non-fumeur, au bout de 10 ans,
d'accord,
ils sont à égalité à peu près.
Okay. Très rapidement, pour ce mois sans tabac, s'il y a des gens qui veulent venir vous voir, comment ça se passe au niveau de l'unité addictologie?
Alors, ils peuvent prendre donc rendez-vous auprès du secrétariat ou ils peuvent être reçus par une secrétaire. Actuellement, c'est vrai, on a quelques difficultés liées aux travaux, mais il n'y a pas de souci, c'est le même numéro de téléphone. Ils sont reçus à l'intérieur de l'hôpital où ils demandent, soit ils veulent une première approche auprès d'une infirmière, soit directement auprès du médecin. Je voudrais dire un mot sur l'efficience économique. L'efficience économique, ce n'est pas l'assimilation abusive, c'est-à-dire diminution ou réduction des dépenses de santé et adaptation aux contraintes budgétaires, mais l'efficience économique, c'est les règles de bonne conduite, les règles de bonne pratique. C'est la médecine fondée sur les preuves et lutter contre le gaspillage. Je m'explique. Pour avoir une économie de santé, c'est-à-dire traiter une pathologie pour 15 jours et non pas un mois, hein, pour un mois, ce qui fait donc 15 jours, ce n'est pas un mois, donc on a quand même un gain économique. Et autre chose, les bonnes pratiques, c'est-à-dire on peut utiliser des médicaments moins chers, voilà, donc c'est ça l'efficience économique et non pas une réduction des dépenses de santé qui peuvent retentir directement sur la prise en charge des patients.
Merci Nasser Adjilali, donc médecin pneumologue, on rappelle à l'unité donc d'addictologie au centre hospitalier de Montluçon. Merci à vous et à très bientôt, au revoir.
Merci.
L'invité du jour.